Le baptême, et en particulier le baptême d'enfant, est quelque chose que nous pratiquons dans nos églises et que nous considérons avec une extrême importance comme quelque chose de très sacré, puisque c'est l'un de nos deux sacrements dans nos églises de la Réforme. Et pourtant, en travaillant la question d'une façon un peu plus théologique, on peut avoir quelques doutes vis-à-vis de l'importance de ce signe. D'abord, très personnellement, je crois que le Christ se moquait un petit peu des signes. Pour lui, en tout cas dans l'Évangile, il n'instaure vraiment pas de rite, ni de liturgie, ni de sacrement. Je pense que ça n'était pas son problème. Au contraire, toute sa vie, il s'est plutôt opposé à ceux qui insistaient trop sur les pratiques d'Église, qui sont représentées là par les pharisiens, qui se préoccupent des règlements, des pratiques, des rites et d'autres choses. Et pour le Christ, l'important, ce ne sont pas les rites, ce ne sont pas les pratiques, mais c'est l'amour, c'est la foi que l'on a dans le cœur, c'est l'espérance dont on vit, et tout le reste, ce ne sont que des choses humaines et secondaires. Les protestants pensent un peu comme cela d'ailleurs, puisque vous savez que nous aimons beaucoup baptiser les petits-enfants, mais il y a aussi des enfants qui ne sont pas baptisés et qui s'en portent très bien. Et donc nous ne pensons pas qu'il faille nécessairement qu'un enfant soit baptisé pour pouvoir avoir la grâce de Dieu. Et de même, nous accueillons comme fidèles et même comme membres de l'Église tous ceux qui veulent partager avec nous la bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous ne regardons pas qui a son certificat de baptême ou qui ne l'a pas. Ce n'est pas la question. Je ne crois pas que Dieu dans le ciel ait des registres où il regarde si on est bien inscrit dans un registre paroissial, où l'on regarde si quand on avait 6 mois, nos parents ont pris la peine de nous faire verser un peu d'eau sur la tête. Je pense très honnêtement que Dieu est au-delà de tout ça. Et d'ailleurs, il faut bien voir que le Christ n'a rien institué du tout. Alors me direz-vous, oui, mais il y a quand même ces paroles de la fin de l'évangile de Matthieu, où Jésus dit « Allez, baptisez, témoignez auprès de toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Alors là, j'ai quelques souvenirs de mes études à la faculté de théologie, où on m'a appris que cette finale de Matthieu est évidemment apocryphe, c'est-à-dire qu'elle a été rajoutée probablement au 3 ou 4e siècle. Et donc Jésus n'a probablement jamais prononcé ces mots-là. Peut-être que ça vous déçoit, mais c'est comme ça. Et la preuve historique qu'en donnent donc les spécialistes, c'est qu'il utilise une formule trinitaire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et l'on sait que la Trinité est quelque chose qui a été inventé au 4e siècle. Et donc Jésus n'a pas pu utiliser cette formule 300 ans avant qu'elle soit inventée. Par conséquent, tous les spécialistes disent que Jésus n'a certainement jamais dit ça. Ça a été rajouté plus tard, alors que le baptême était déjà devenu une pratique d'Église. Autrement dit, le baptême, ce n'est pas quelque chose de biblique, le baptême d'enfant en tout cas. Ce n'est peut-être un peu biblique, mais certainement pas évangélique. Et c'est uniquement quelque chose qui appartient à notre pratique. Et la pratique est bonne, elle est importante, mais elle n'est pas l'essentiel. Et d'ailleurs, vous savez même qu'il y a un bon nombre de chrétiens qui critiquent, non pas le baptême, mais le baptême d'enfants. Parce que là, il y a un autre problème. C'est qu'apparemment, il y a bien des baptêmes dans le Nouveau Testament, mais ce sont toujours des baptêmes d'adultes. Et des baptêmes par immersion, c'est-à-dire les gens étaient plongés dans l'eau et cela symbolisait leur entrée dans l'Église chrétienne. Autrement dit, apparemment, dans le Nouveau Testament, le baptême d'enfant n'existait pas. Les gens se faisaient baptiser quand ils devenaient chrétiens et c'était un baptême de conversion au christianisme et pas un baptême d'enfant. À cause de cela, un certain nombre de chrétiens aujourd'hui refusent de baptiser les enfants. C'est le cas des églises baptistes aujourd'hui. C'était le cas déjà du temps de la Réforme, des églises dites anabaptistes, Et c'est le cas encore aujourd'hui aussi de certains fidèles de nos églises qui ne veulent pas baptiser les enfants, mais font ce qu'on appelle une présentation pour éviter de détourner un geste biblique. Alors là encore, vous savez, les théologiens ont beaucoup de ressources. Et certains disent, mais il n'est pas si certain que cela qu'il n'y ait pas eu de baptême d'enfants dans le Nouveau Testament. Et la meilleure preuve, c'est la conversion de Corneille dans les Actes des Apôtres, où là, il y a en effet un Romain, je crois, qui se convertit au christianisme. Pierre va le voir, il discute avec lui, et on nous dit à la fin que Pierre baptise toute sa maison, c'est-à-dire Corneille, mais aussi toute la famille, et s'il y avait des enfants, également les enfants. Et donc on se dit, mais peut-être que, justement, le baptême pouvait aussi finalement intéresser, je dirais, d'autres gens que uniquement celui qui se convertissait. Et ça, c'est tout à fait possible, parce que en effet, cela pourrait déjà nous donner une piste sur le sens que nous donnons au baptême d'enfant. C'est que quand on baptise un enfant, on veut dire qu'il fait partie de la famille chrétienne. Comme quand Jésus baptise toute la famille de Corneille, il dit voilà, c'est une maison chrétienne, et les enfants qui sont dans cette maison chrétienne, eh bien, ils font partie de la famille du christianisme. Ils sont en quelque sorte incorporés à l'Église en tant qu'enfants. Et c'est en ce sens que Calvin disait que le baptême d'enfant était en fait le pendant de la circoncision chez les Juifs. Par la circoncision, on incorpore l'enfant au peuple élu. Eh bien, nous ne faisons pas de circoncision, parce que nous ne voulons pas d'abord de marque dans la chair, et d'autre part, nous voulons un geste qui mette les sexes à égalité, garçons et filles. Par conséquent, nous avons le geste du baptême, qui incorpore l'enfant dans la grande famille chrétienne et qui lui dit qu'il est bienvenu dans l'Église. Alors, bien sûr, il y a là une nuance, c'est qu'il y a une conviction très forte dans le christianisme que être chrétien, c'est un choix personnel. On est chrétien quand on le veut, quand on le déclare, quand on le dit et quand on professe sa foi. Un enfant ne peut pas professer sa foi à 6 mois, 1 an, même 2 ans. Et par conséquent, cet accueil dans l'Église n'est qu'un accueil. Et l'on dit l'enfant est bienvenu dans l'Église parce qu'il fait partie d'une famille chrétienne. Il y a sa place, il est là comme chez lui. Mais il y est en tant qu'il est l'enfant de parents chrétiens. Et donc le baptême, c'est en fait la déclaration de foi des parents, pas de l'enfant. Et un jour, on demandera à l'enfant s'il veut confirmer sa place dans l'Église et s'il veut en faire partie, non pas seulement parce qu'il est l'enfant de parents chrétiens, mais parce que lui dira « Je veux être chrétien et je veux faire partie de l'Église ». Donc déjà, ça, ce serait un premier des sens du baptême. Et puis après tout, je dirais qu'on n'est pas obligé de ne faire que des choses bibliques. Je pense effectivement que le baptême dans la Bible était un baptême d'adultes, majoritairement. Mais après tout, on n'est pas obligé de faire tout pile poil comme dans la Bible. Et vous savez que la réforme, il y a eu une querelle entre les réformateurs au XVIe siècle, entre les tenants de la réforme, normale, qui est celle de Calvin et de Luther, et ceux de la réforme radicale. Les tenants de la réforme disaient « Tout ce qui n'est pas explicitement contraire à la Bible est autorisé. » Et les tenants de la réforme radicale disaient « Tout ce qui n'est pas explicitement dit par la Bible est interdit. » Et c'est pourquoi certains ont dit « Le baptême d'enfants n'est pas dans la Bible, donc c'est interdit. » Et Luther et Calvin ont dit « Le baptême d'enfants peut-être n'est pas dans la Bible, mais il n'est pas interdit où que ce soit. » Et d'autre part, il dit des choses fondamentalement évangéliques, donc c'est un geste qui est évangélique par sa signification. Donc reste le problème de la signification. C'est-à-dire que le baptême d'enfants est un geste qui a un sens. Et le problème, c'est le sens qu'il a. Par conséquent, je suis d'accord pour dire que le baptême d'enfant n'a rien à voir avec le baptême d'adulte du Nouveau Testament. Ça n'a rien à voir, ça s'appelle aussi baptême, c'est une erreur, mais où il y a aussi de l'eau, mais ça n'a rien à voir, ça n'est pas le même geste. Mais néanmoins, c'est un geste qui a une signification, je crois, très profondément évangélique. Et là, les choses se compliquent encore. Parce que quand on regarde dans l'histoire le sens qu'a pu prendre ce geste du baptême, ou du baptême d'enfant en particulier, on se rend compte que c'est extrêmement complexe et qu'il y a pu y avoir des tas de sens différents. À l'origine, avant même qu'il y ait des chrétiens, nous trouvons le baptême de Jean-Baptiste. Il est d'ailleurs amusant que, pour justifier le baptême d'enfant, souvent on lise le récit du baptême de Jésus. Mais le baptême de Jésus n'a rien à voir avec le baptême d'un enfant, rien de rien. D'abord, ça n'était pas un baptême d'enfant, mais un baptême d'adulte. Ensuite, c'était un baptême par immersion dans le Jourdain. Et enfin, ça n'était pas un geste chrétien, puisque c'était avant que Jésus ait commencé son œuvre. Donc, c'était un rite juif. Et effectivement, les Juifs pratiquent des baptêmes, c'est-à-dire des rites d'ablution, où les gens reconnaissent leurs fautes et on les plonge dans l'eau et ils en ressortent comme s'ils étaient lavés. C'est-à-dire que ça, c'est le premier sens du baptême. C'est l'idée que l'individu est plongé dans l'eau et qu'il en ressort propre et purifié. Autrement dit, le premier sens du baptême, c'est le pardon du péché. Ce baptême est encore pratiqué par les Juifs aujourd'hui dans les synagogues. Donc c'est le baptême qui signifierait le pardon des péchés. Ça a eu ce sens-là au début de l'Église chrétienne. Ce qui fait que quand on baptisait les chrétiens, on disait « tous tes péchés sont pardonnés ». Alors il y a eu une dérive et les chrétiens ont commencé à se faire baptiser le plus tard possible, en se disant « comme ça j'annule le plus grand nombre de péchés et j'arriverai plus facilement au paradis ». L'Église a lutté contre ça en disant « mais non, c'est pas comme ça que ça doit se passer ». Le baptême doit être au début de la vie. Alors du coup, ils ont inventé à ce moment-là l'extrême onction en disant « bon, écoutez, faites-vous baptiser quand même tout petit, le plus vite possible. » Et puis pour la fin, eh bien, on invente une autre remise à zéro qui est l'extrême onction. Et là, donc comme ça, il n'y a pas de problème. Alors du coup, les gens se sont fait baptiser le plus tôt possible en se disant « ben oui, mais si le bébé meurt, et comment il ira au paradis ?» Et donc, on a commencé à les baptiser pratiquement dès la naissance. Bon, tout cela, ce sont, entre nous, des superstitions. Mais néanmoins, ça pose la question de savoir si est-ce que le baptême a encore aujourd'hui ce sens de pardon des péchés. Alors, pour un grand, peut-être, admettons, mais effectivement, mais pour un bébé, quel péché on va lui faire pardonner, ce pauvre ange? Genre, il est tout petit, il n'a jamais fait ni bien ni mal. On va lui faire pardonner ses péchés. Le baptême, ça veut dire, voilà, tu as 6 mois, 1 an, 2 ans, on te pardonne tes péchés. C'est monstrueux. Alors les théologiens du Moyen-Âge ont dit, oui, c'est pas tellement qu'il ait fait beaucoup de péchés, mais c'est que le baptême efface la trace du péché originel. Alors là, je trouve qu'on va de mal en pis. Parce que, bon, ça a été prêché au Moyen-Âge, c'est vrai, mais je ne suis pas le seul, avec de nombreux théologiens, je ne peux pas admettre l'idée d'une culpabilité héréditaire, comme si on devait trimballer la culpabilité de la faute d'Adam et Ève que nous n'aurions pas commise, et comme s'il fallait qu'on nous pardonne à nous cette culpabilité héréditaire qui nous viendrait par notre ascendance humaine. Enfin, cela me semble totalement inassimilable d'un point de vue évangélique, pour tout vous dire. Alors, certains disent, ah, mais en fait, non, le péché originel, c'est l'imperfection fondamentale que nous avons à notre naissance, et c'est vrai que nous naissons tous imparfaits pécheurs. Bon, alors admettons, mais est-ce que vous croyez vraiment que si je baptise votre enfant, il échappera à son imperfection fondamentale? Non. Par conséquent, je crois que ça ne va pas non plus. Alors comment pourrions-nous essayer de récupérer quand même ce sens? On pourrait le faire quand même en disant, oh ben après tout, le baptême, c'est une sorte de grand bain de pardon. Voilà. Et baptiser un bébé, c'est dire, écoutez, voilà, on le plonge dans une sorte de pardon a priori et par avance pour tout ce qu'il fera. Voilà. Donc par avance, il est pardonné. Et on le plonge dans un grand bain de tendresse, d'amour et d'un Dieu qui pardonne a priori et qui pardonnera tout. Bon. C'est déjà un petit peu mieux, mais avouez qu'il faut quand même tirer un peu par les cheveux pour s'en sortir. Alors après, donc ça c'est le baptême juif en fait. Après, chez les premiers chrétiens, le baptême a été le signe de la nouvelle naissance. J'en ai parlé tout à l'heure, c'était le signe de la conversion. L'individu qui se convertissait au Christ se faisait baptiser et à ce moment-là, il était plongé dans l'eau comme s'il devait mourir à son ancienne vie et il devait ressortir de l'eau comme un enfant qui naît à une existence nouvelle. Et d'ailleurs, on trouve des baptistères encore aujourd'hui en Terre Sainte qui symbolisaient cela d'une façon encore plus forte. C'était comme un tunnel. Donc le candidat, l'appelait comme ça parce qu'on l'habillait en blanc, le candidat descendait dans le tunnel, dans le noir, dans le sombre de la mort. Là, il était plongé dans l'eau de la mort, et il ressortait de l'eau comme un enfant qui sort des eaux du ventre de sa mère, et il sortait du tunnel à la lumière comme s'il naissait de nouveau. Ça, c'est le baptême des premiers chrétiens, le baptême symbolisant la nouvelle naissance. Et c'est le sens que donnent aujourd'hui les églises baptistes au baptême, ceux qui baptisent donc les adultes par immersion. C'est une allusion à ce moment-là au texte de Jean avec le récit du dialogue entre Jésus avec Nicodème où justement il dit qu'il faut que l'homme naisse de nouveau. Alors cela est très beau, mais quel est le rapport avec notre baptême d'enfant ? Eh bien, je crois à peu près aucun, parce que une fois de plus, c'était un baptême par immersion, donc on plongeait l'enfant comme s'il mourait. Mais moi, quand je baptise un bébé, je ne vais pas dire aux parents « Votre enfant meurt !» Il ne meurt pas. Et puis d'autre part, est-ce que l'enfant naît à une vie nouvelle le jour de son baptême ? Je ne crois pas, non. Donc je pense que cette signification n'a à peu près rien à voir avec ce que nous signifions pour un bébé. Bon, alors moi, j'essaye toujours de récupérer les choses. Alors comment pourrait-on récupérer cela ? On pourrait essayer de les récupérer en disant, pour être pleinement humain, il ne suffit pas d'être né de la chair et du sang. C'est-à-dire que nous ne sommes pas des bêtes, nous ne sommes pas des mammifères. Et donc il faut qu'il y ait en nous une dimension spirituelle qui progressivement grandisse et se développe. Et de même que la naissance physique est marquée par la naissance physique, eh bien pourquoi ne marquerait-on pas le début, en quelque sorte, un peu symbolique de cette dimension spirituelle qui va apparaître progressivement chez l'être humain et qui est appelée à grandir ? Donc peut-être que baptiser un enfant, cela veut dire effectivement, cet enfant ne naît pas spirituellement le jour J de son baptême, mais pour dire il y a en lui une dimension spirituelle, cet enfant n'est pas qu'un enfant de la chair et du sang, il est aussi enfant de Dieu, et nous voulons marquer qu'il est appelé à une vie nouvelle, à une vie spirituelle, et si les parents baptisent cet enfant, c'est pour dire qu'ils ont conscience qu'il y a aussi une dimension spirituelle, et donc ils ne se contenteront pas de le nourrir de nourriture terrestre, de lui apprendre l'histoire de France et la géographie et les mathématiques, mais ils prendront soin aussi de cette dimension spirituelle pour la faire grandir. Mais en fait, bon, ça c'est vraiment de la récupération, hein, on essaye de faire ce qu'on peut pour retrouver du sens dans ce que nous faisons, mais je crois très profondément que ce sont des bricolages, des rapiéçages et des fausses pistes. Et que le vrai sens de ce que nous faisons, nous, quand nous baptisons les enfants, doit être compris à partir du fait que nous appelons ça un sacrement. Et peut-être savez-vous ce que c'est qu'un sacrement ? Eh bien, la définition officielle du sacrement, c'est signe visible de la grâce invisible de Dieu. Ça, c'est un sacrement. Un sacrement, c'est un signe visible de la grâce invisible de Dieu. Et donc voilà le secret. Il n'y a rien à récupérer. Le baptême d'enfant n'est pas le baptême de la Bible. C'est un signe visible de la grâce invisible de Dieu. Et je pense qu'effectivement, du coup, tout prend son sens. Parce que vraiment, une des grandes affirmations de l'Évangile, c'est que Dieu nous donne sa grâce, que Dieu nous donne son amour, que Dieu nous donne sa présence, son pardon et sa paix. Et une des grandes affirmations du Christ, c'est que la grâce de Dieu nous est offerte sans que nous la méritions. Elle nous est offerte sans que nous puissions y prétendre. Elle nous est donnée par la seule initiative de Dieu. Et baptiser un enfant ou baptiser un adulte ou qui que ce soit, c'est dire « Dieu t'aime ». C'est dire « Dieu te donne sa grâce ». Et à partir de là, nous pouvons comprendre pourquoi nous baptisons même un tout petit bébé qui n'en a pas conscience. C'est qu'il y a là une confession de foi, je crois, très forte de la part des parents, de dire « Je crois que Dieu n'aime pas simplement ceux qui sont grands, beaux et forts ». Dieu n'aime pas que ceux qui ont une foi formidable, Dieu n'aime pas que ceux qui sont purs, que ceux qui sont bons, que ceux qui sont généreux, mais Dieu aime tout le monde. Et Dieu donne sa grâce à tous, sans condition. Et même un bébé qui vient de naître, il est sous la grâce de Dieu. Et Dieu, qui que nous soyons, Dieu nous donne sa grâce, Dieu nous accueille et Dieu nous offre tout. Et cela nous montre en effet que du coup, la vie chrétienne, eh bien, elle est, je dirais, initialisée par la grâce de Dieu. Ce qui est premier dans tout notre rapport à Dieu, c'est que avant toute chose, Dieu nous aime. Et du coup, l'amour de Dieu n'est pas une chose à gagner par une sorte de progression, de purification progressive, mais l'amour de Dieu, il est premier et il nous est donné avant même que nous en ayons conscience. Alors celui qui dirait « Non, 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 moi je demanderai le baptême quand je m'en sentirai prêt. » Mais pourquoi faudrait-il être prêt pour mériter d'être aimé par Dieu? On est aimé par Dieu avant d'être prêt, avant même de savoir y répondre. C'est ce que dit la liturgie du baptême. Avant même que nous puissions entendre, comprendre, réaliser ce qu'est l'amour de Dieu, déjà Dieu nous aime. Avant même que nous sachions y répondre, déjà Dieu nous aime et nous appelle par notre nom. Et l'amour de Dieu est ce qui est premier dans notre vie. C'est le point de départ, parce que la vie chrétienne ne consiste pas à essayer de gagner l'amour de Dieu, mais la vie chrétienne consiste à essayer d'apprendre à y répondre. Et là, je trouve que c'est une nouvelle extraordinaire de comprendre que nos églises chrétiennes, protestantes et catholiques, se soient mis d'accord justement sur le baptême des enfants. On n'a pas beaucoup d'accords entre nous, mais celui-là, il y a un seul baptême. Et donc nous disons tous chrétiens, voilà, la seule chose fondamentale et essentielle, c'est que l'amour de Dieu est premier, que la grâce de Dieu est première et que Dieu nous offre sa grâce inconditionnellement dès le début de notre vie, qui que nous soyons. Après, vous y répondrez comme vous voulez, protestants, catholiques, orthodoxes, coptes, ce que vous voulez. Mais l'important, c'est que l'amour de Dieu est premier et au départ de toute chose. Dieu nous aime avant même de savoir si nous le mériterons ou non, si nous serons bons ou mauvais, si nous ferons du bien ou du mal, avant même de savoir si nous répondrons un jour à cet amour. Donc vous voyez, le baptême, finalement, ça n'est pas l'engagement de l'enfant. Je dirais, le baptême, c'est l'engagement de Dieu, et c'est tout. Après, l'enfant, il sera libre de répondre ou pas à cette grâce. Les parents ont le droit de dire qu'ils croient que l'enfant est aimé. Et c'est tout ce qui se passe. Les parents disent « Nous croyons que notre enfant est aimé par Dieu. Ben, » ils ont le droit de le dire quand même. Après, l'enfant, ben, il répondra ou il ne répondra pas. S'il ne veut pas répondre, il dira « Mais moi, j'en ai rien à faire de votre baptême. » C'est son droit. Mais il peut dire « Oui, je veux répondre à cette grâce. » Et ça, c'est le moment émouvant de la confirmation des enfants quand ils ont 16 ans, où je leur dis « Voilà, étant petit, tes parents ont voulu te donner le signe de l'amour de Dieu. Étant petit, tu as reçu le baptême te disant que Dieu t'aimait. Veux-tu aujourd'hui répondre à cette grâce de Dieu et devenir chrétien? Veux-tu répondre à cette grâce de Dieu et dire que Dieu est ton Père, comme il a voulu faire de toi son fils? » Et l'enfant dit oui ou non, mais en tout cas, il peut répondre oui, mais il peut ne pas y répondre. Et du coup, ça engage un peu aussi les parents. Si vous, parents, vous donnez un signe à votre enfant, vous avez une responsabilité. Eh bien, c'est d'essayer de lui faire comprendre le sens de ce signe. Parce que là, ce serait malhonnête de donner un signe à un enfant et de ne pas lui donner les moyens de le comprendre. Et donc, effectivement, je crois que des parents qui baptisent leurs enfants ont la responsabilité ensuite de leur expliquer ce que cela signifie. Mais du coup, il y a, je dirais, une infinité de textes dans la Bible qui justifient ce geste. La grâce vous est offerte, vous êtes sauvés par grâce, et Dieu nous aime avant même que nous puissions lui répondre. Et c'est aussi pourquoi, d'ailleurs, nous baptisons, je vous disais, notre baptême n'est pas le même que le baptême d'adulte, et nous baptisons non pas par immersion, mais par ce que l'on appelle par affusion, c'est-à-dire en versant un peu d'eau. Parce que l'eau en grande quantité dans la Bible, c'est la mort, oui c'est vrai, c'est le déluge, c'est la mer qui nous noie. Mais l'eau en petite quantité, c'est la vie, c'est l'eau de la rosée, c'est l'eau de la pluie qui transforme le désert en jardin, c'est l'eau de la source qui donne la vie aux promeneurs qui assoiffés. Et donc pour nous la petite quantité d'eau que nous mettons est justement le signe de cette grâce et de cette vie qui est offerte. Pas le signe d'une mort, ni d'une nouvelle naissance, ni d'une purification, parce qu'on ne se lave pas avec trois gouttes d'eau, mais simplement c'est l'eau qui donne la vie et qui change tout. Et c'est pourquoi, effectivement, nous retrouvons là ce texte merveilleux de l'Évangile qui dit « Dieu fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes ». Et je crois que c'est vrai. Il ne pleut pas plus dans le jardin du juste que dans le jardin de l'injuste. Et la source qui coule dans le désert et qui donne la vie aux promeneurs, la source ne s'arrête pas de couler quand un voleur vient boire. La source, elle s'offre à tout le monde, comme la grâce de Dieu qui s'offre à tout le monde. Et le baptême, ça dit cela. Le baptême, bien sûr, ne provoque pas la grâce. Le baptême, il l'a dit. L'enfant a tout autant la grâce sans être baptisé. Mais le baptême la signifie. Et il dit que c'est la grâce qui est offerte et qui effectivement peut transformer une vie, peut donner une source de vie, une source de fécondité à une existence. Et c'est cela que nous offrons à l'enfant. Et si vous creusez bien, la symbolique finalement est même importante. Je vous ai dit, voilà, nous nous baptisons avec un peu d'eau. Maintenant, si vous assistez à des baptêmes, vous regarderez comment ça se passe. Et vous verrez que dans la façon même de baptiser, eh bien, il y a toute une théologie qui se développe. Et en effet, regardez comment ça se passe, c'est-à-dire que nous, chez les protestants, on baptise, je dirais, avec extrêmement peu d'eau. Et d'autre part, on baptise, comme me l'ont appris des vieux pasteurs qui ont l'habitude, ils m'ont dit, quand tu baptises un enfant, tu mets de l'eau tiède, tu mets de l'eau chaude, parce que comme ça, l'enfant, il est bien. Et effectivement, je trouve que ça change tout par rapport à... J'ai assisté à certains baptêmes épouvantables où l'enfant est retourné en arrière sur une sorte d'autel et puis on lui jette dessus par trois fois des seaux d'eau glacée sur la tête et l'enfant hurle. C'est effroyable. C'est-à-dire quelle est cette conception de la grâce de Dieu qui ne peut être vécue que dans le drame, que dans le déchirement, que dans les pleurs. Ce n'est pas ma conception de la grâce. La grâce de Dieu, elle se reçoit dans la paix, dans la tranquillité, dans le bonheur. C'est une grâce toute faite de douceur, de tendresse, de tranquillité. Et il n'y a pas besoin de drame ou de déchirement pour être chrétien. Être chrétien, c'est simplement rajouter dans sa vie une source d'existence, une source de grâce, une source d'amour et une source de paix. Et je pense qu'un enfant, même tout petit, eh bien, il a le droit, je dirais, à la tendresse, au respect, même de la personne, à la considération, et je pense qu'on peut lui dire qu'il reçoit Dieu et que pour lui, ce n'est pas un drame ni une mauvaise nouvelle. Et finalement, vous voyez, il y a plein de sens possibles pour le baptême, mais peut-être que le seul texte fondateur du baptême, et ça, c'est ce qu'ont dit les réformateurs depuis le début, le seul texte fondateur, c'est Jésus qui accueille les enfants. Quand on dit, vous voyez, des gens amènent des enfants à Jésus et les disciples disent « Mais non, le Seigneur a autre chose à faire. » Et Jésus dit « Mais pas du tout. Laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et là, il leur impose les mains, il les bénit et il les embrasse. Et il les laisse partir, c'est-à-dire qu'il leur donne la liberté. Eh bien, ce passage-là est absolument merveilleux parce que cela montre que l'Église s'est aussi fait pour les petits. Et ce n'est pas fait que pour les théologiens, pour les grands, pour les spécialistes, pour les bons, les purs, ceux qui sont actifs. Mais non, il y a de la place dans l'Église, même pour les enfants, pour les petits. Il y a de la place dans le cœur de Dieu pour chacun, et même les petits, qui n'ont fait encore ni bien ni mal. Il y a de la place pour tous. Et cela veut dire que Dieu, simplement, nous invite à entrer avec lui dans une relation de simplicité, sans jugement, mais juste avec un geste d'amour. Et nous sommes tous enfants de Dieu, et il nous dit, ben écoutez, vous n'êtes peut-être pas parfait, je n'en sais rien, mais Jésus, il a du temps, même pour nous, et même pour le plus petit, même pour le plus humble, Jésus a du temps, et il nous reçoit, il dit, ben vous venez. Et qu'est-ce qu'il nous fait? Eh bien, il nous embrasse, il nous prend dans ses bras, il nous donne sa tendresse, et il nous bénit, sans jugement, juste de l'amour, de la tendresse, une relation pour que nous puissions grandir avec lui dans la liberté et dans la joie. Et ça, je crois que c'est une excellente nouvelle, et c'est vraiment cette image, je crois, de la grâce, et je pense que c'est vraiment un très beau cadeau à faire à un enfant ou à un adulte ou à qui que ce soit, que de lui dire un jour, écoute mon enfant, tu es baigné dans l'amour, tu es baigné dans la grâce, et à la base de toute ta vie, à la base de tout, il faut que tu saches que tu es aimé. Amen.